forte. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, je veux me mettre dans tes plans. Je veux... Voilà, toutes ces paroles qui sont importantes à chanter, qui sont importantes aussi à prendre en compte et à en prendre conscience. Et avant de... Dans mon introduction, je voudrais vous partager une chose. Tout d'abord, je voudrais, pour ceux à qui je ne l'ai pas fait, souhaiter une bonne année. On est en 2013, vous savez, on est le 13 janvier. Il y a moins d'un mois de ça, on devait partir tous, hein, puisqu'on devait vivre la fin du monde. Manque de peau, on est là. Et aujourd'hui, on a tout le mois de janvier pour pouvoir dire à chacun, se tourner à côté de son voisin, lui dire bonne année. Est-ce que vous avez souhaité la bonne année à votre voisin? Ouais? Non? Ouais? Bon. Voilà. Alors maintenant, je vais m'adresser au voisin. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose qu'on vous souhaite une bonne année? Est-ce que votre vie va changer? Non? Ouais, ça dépend dans quel esprit on me le dit. Mais tu vois, je t'aurais dit bonne année ou bananier, c'était pareil. D'accord? Parce qu'en fait, souhaiter la bonne année, c'est bien le premier mois de janvier. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand on se souhaite une bonne année, on prend des bonnes résolutions. Alors je pourrais faire le tour, demander à chaque chaise ici, surtout les chaises pleines, pas les vides, mais je pourrais vous demander quelles sont vos résolutions pour 2013. Alors il y en a qui vont me dire, moi je voudrais recommencer le sport. Je voudrais perdre du poids. Bon, c'est mon cas. Je voudrais, je voudrais changer de travail. Je voudrais, etc., trouver du travail. Je voudrais ceci, cela. Et ces résolutions, ce sont des bonnes choses que l'on prend comme ça en tout début d'année. Et puis, les jours passent et les résolutions s'estompent. Quels sont ceux qui, en 2012, se souviennent de leurs résolutions de 2012 et qui, le 31 décembre, se sont dit, tiens, mes résolutions, ça y est, je les ai accomplies. Allez-y, levez la main. Et déjà, est-ce que vous vous souvenez des résolutions? Tu te souviens de tes résolutions? Non? Bon. Non, il n'y en a pas un qui... Tu t'en souviens? Est-ce que tu as réussi à faire en sorte que tes résolutions puissent s'accomplir? Eh bien, c'est une bonne chose. Voilà, on va tous applaudir Solange. Bravo Solange. Il y en a toujours un pour contredire un prêche. En l'occurrence, une. Se souhaiter une bonne année, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans une vie. C'est toujours un bon moment. C'est vrai qu'on a passé un bon moment le 31 ici, arrivé à minuit. On a fait le décompte, 10, 9, 8, bonne année, etc. Et puis les jours passent et puis on repart dans une routine d'une nouvelle année. Alors c'est vrai qu'après, quand vous faites des chèques, c'est difficile. Vous devez mettre 13 au lieu de 12. Mais ça ne change rien. Le 31 décembre, vous êtes passé au 1er janvier, mais ça n'a rien changé. On était une nouvelle année, mais c'était un autre jour qui a passé. J'ai commencé pour ma part cette nouvelle année, ou plutôt j'ai terminé l'année 2012 en vivant une épreuve. Et cette épreuve, elle n'est pas finie. Et je vais vous partager un petit peu ce qui se passe. Comme beaucoup le savent, je suis dans l'immobilier. Je vends de l'immobilier, je vends des appartements pour faire du placement financier. Au mois d'octobre, donc comment je travaille ? On travaille en partenariat avec des banques, en l'occurrence deux, et ces banques nous envoient leurs clients quand ils se rendent compte que leurs clients ont envie d'investir dans l'immobilier. Et à partir de là, c'est moi qui les prends en main, et puis on fait de la gestion patrimoniale. Sauf qu'au mois d'octobre, mon partenaire s'est dit, le comptoir immobilier, on va leur couper les ponts. On va faire en sorte que on puisse continuer le partenariat avec eux, mais on va leur enlever tous les produits, ils n'auront plus rien à vendre. C'est comme si j'étais vendeur de voitures et sur le parc, je n'ai pas une seule voiture. Donc j'allais voir mes clients, je faisais la démarche patrimoniale, et à la fin, les clients me disaient, on signe? Je disais, non, j'ai rien à vous vendre. Et aujourd'hui, je suis encore dans ce cas-là. C'est-à-dire que, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et j'ai la chance et le privilège de travailler avec un collègue qui est chrétien. Il est dans une autre église ici sur la métropole. Mais on se pose des questions et on partage pas mal au point de vue spirituel, au niveau de la Bible, et on se dit, mais c'est quoi demain? Pour tout vous dire, on aura une réponse mardi. Mardi, si la réponse est négative, mon poste risque d'être... Et puis, donc, on parlait avec mon collègue, et j'ai l'habitude, je vais dans son bureau, parce que son bureau donne sur la rue, on est dans la rue nationale, et j'ai l'habitude de regarder le bâtiment de notre partenaire. Et le bâtiment de notre partenaire, de cette banque, il est juste en face de notre bureau. Donc on les voit, ils sont là en face. Et donc, je vois les voitures qui passent et je regarde ce bâtiment. Et puis, on parle, on continue à parler avec Pascal. Je vais vous montrer donc le bâtiment. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est la vue que j'ai, qu'on a de notre bureau. Donc là, vous avez ici notre partenaire et le bâtiment blanc qui est à côté, c'est notre second partenaire. Et puis, donc j'étais à la fenêtre comme ça, et puis je regardais ce bâtiment. Et puis, subitement, j'ai mes yeux qui se sont tournés en haut à droite. Est-ce que vous voyez en haut à droite? Il y a des tags. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Oui? Non? Est-ce que vous lisez comme moi, Jésus? Et là, j'ai dit à mon collègue, je dis, Pascal, regarde, est-ce que tu lis la même chose que moi, là-haut? Et il vient à la fenêtre, il me dit, ben ouais, c'est marqué Jésus. Effectivement, c'est marqué Jésus. Comment on peut interpréter ça? Parce que ça fait maintenant un an que je suis dans cette structure. J'ai jamais vu ce tag. Peut-être qu'il est nouveau, hein, j'en sais rien. Alors déjà, pour aller le taguer là-haut, il faut pas avoir le vertige, etc. Mais pourquoi? Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce qu'on a très bien pu me souhaiter la bonne année. Et puis cette bonne année, j'ai dit oui, ok, merci, tu me souhaites une bonne année. Mais ça n'empêche pas que mes problèmes dans mon boulot sont toujours là. Et souvenez-vous, si on fait un retour en arrière... Lorsque je vous ai dit « j'ai trouvé du travail », je vous ai dit aussi « Dieu a tout dirigé ». Et Dieu, il a ouvert toutes les portes pour ce travail. Mais de façon bizarre, miraculeuse, surnaturelle, puisque c'est Dieu qui est intervenu, c'est surnaturel. Et un an après, je vous dis « je vais peut-être perdre mon boulot ». Et là, vous, qu'est-ce que vous allez me répondre? « Attends Fred, il y a un an, tu nous as dit que c'était Dieu de ce boulot ». Et oui, effectivement, Dieu a ouvert les portes. Là, ce que m'a montré Jésus, c'est que tout simplement, il est au-dessus de mes ennemis. Je ne dis pas que c'est mes ennemis, mon partenaire, mais il est au-dessus de mes épreuves. Mon épreuve, c'est mon partenaire. Jésus, il est au-dessus. Et il a dit par rapport à ça, il m'a dit, Fred, voilà, je te mets les yeux sur ce tag parce que mon nom, il est au-dessus de tes partenaires, il est au-dessus de tes épreuves, il est au-dessus de ton boulot, des problèmes de ton boulot. N'aie pas peur. C'est pas bonne année qu'on devrait souhaiter à son voisin. C'est n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le 21 décembre, on avait tous les pétoches, on s'est dit, tiens, ce soir, on n'est plus là, etc. J'aurais plus ma maison, ma voiture. Non, on est toujours là, n'aie pas peur. C'est un truc que j'aime bien rappeler, mais dans la Bible, il est mis 365 fois, n'aie pas peur. Dans l'année, il y a combien de jours? 365. 365 fois, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc aujourd'hui, j'ai pas peur. Bon, j'étais en paix, hein, je vous rassure, hein, je suis pas inquiet, parce que je sais que Dieu a tout entre ses mains. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, au lieu de vous souhaiter une bonne année, moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Où places-tu ta foi? Où est ta foi aujourd'hui? Tu peux avoir des problèmes, tu as des joies, tu as des peines, tu sais que tu marches en boitant, que tu marches peut-être, tu es un jour bien, un jour pas bien, mais... Est-ce que vraiment tu as mis ta foi en Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment là pour te dire, ok, moi j'ai ta vie entre tes mains, et puis on va marcher ensemble. Où as-tu placé ta foi? C'est une question qui est importante parce que, c'est à nous maintenant de nous poser cette question et à y répondre honnêtement. Donc pour ça, on va lire Hébreux. Ah oui, alors juste avant, j'ai rajouté ça en dernière minute. J'avais un pasteur qui avant avait une définition, alors il était australien, il parlait bien français, mais bon, il y avait encore des petites choses comme ça. Pour lui, la définition de la foi, puisque c'est le thème aujourd'hui de mon prêche, c'est « Où places-tu ta foi ?» La foi, pour lui, c'était que c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. C'est pas très français, je vous le conçois. Mais avec Pascaline, c'est vrai qu'avec nos amis, etc., tous ceux qui ont connu ce pasteur... qui est en Australie maintenant, la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Moi, j'ai l'entraînement, j'arrive à le dire d'un coup. Hein. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est la définition, comme ça, d'un Australien qui était en France, qui disait, voilà, la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Et pour ça, on va lire Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 12. Or, la foi, et là, on aura pas mal d'exemples, de personnes dans la Bible qui ont marché par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Je la refais ? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que ça va jusque-là ? Ouais ? Vous êtes toujours avec moi ? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les anciens, ils se sont mis en Dieu. Et que c'est Dieu qui a dirigé les pas, parce que Dieu fait en sorte que les épreuves qu'on peut traverser dans nos vies soient à sa gloire. Et à partir du moment où on traverse des épreuves qui, forcément, dans une épreuve, vous avez du positif à en retirer, dans toute épreuve, vous êtes d'accord avec moi ? Dans toute épreuve, il y a du positif. La première des choses que l'on fait en tant qu'humain, c'est de pouvoir regarder le négatif d'une expérience ou d'une épreuve, mais à partir de là, Dieu retire le positif. Et donc, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dieu a manifesté sa gloire dans les épreuves. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Vous croyez ça? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Là, on nous dit tout simplement que Abel a donné le meilleur du meilleur du meilleur. Il a donné une offrande qui était meilleure, qui était le meilleur de lui-même, et c'est pour ça que Dieu a béni. Parce que dans sa foi, peut-être qu'il n'avait pas les moyens de donner cette offrande, mais il est allé chercher au fin fond de lui-même pour pouvoir les donner cette offrande à Dieu. Et Dieu a apprécié et a fait en sorte qu'Abel puisse être béni. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pareil, la foi a fait qu'Enoch a été agréable à Dieu. Il y a deux personnes qui sont dans la Bible qui ne sont pas passées par la mort, Élie et Enoch. Vous imaginez demain, vous êtes enlevé, Dieu vous enlève, on ne vous trouve plus. Vous n'êtes pas mort, mais on vous considère comme mort, vous n'êtes plus là. Et là, il avait une telle présence, une telle foi en Dieu, que Dieu a permis ça. Or, sans la foi, je l'ai souligné ce verset, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et ça, ça m'a fait tilt, ce petit passage-là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En tant que responsables, les responsables d'église ne sont pas là pour vous obliger à croire. Ils sont là pour vous obliger, enfin à obéir, pardon, ils ne sont pas là pour vous obliger à obéir, ils sont là pour vous obliger à croire. Mais on ne peut rien vous obliger, bien évidemment. Mais on n'est pas là pour vous obliger à obéir, on est là pour vous obliger à croire. Parce que si vous obéissez à quelque chose dont vous ne croyez pas, c'est peine perdue. Et là, Dieu nous dit bien que sans foi, on ne peut pas lui être agréable. Comment on fait pour devenir chrétien aujourd'hui ? Il suffit de dire, ok Jésus, moi je crois que tu as donné ta vie sur la croix pour moi, que tu as pris mes péchés, et grâce à ta mort, aujourd'hui, je suis racheté. Et je pense qu'ici, pour la plupart, on a fait cette démarche de dire à Jésus, et la preuve en est, c'est qu'on a eu des baptêmes la semaine dernière et puis la semaine avant, où on a baptisé un certain nombre de personnes, où on leur a bien fait confesser en disant, voilà, aujourd'hui, tu crois que Jésus a donné ta vie pour toi ? Oui. Eh bien, allons-y. Tu as déjà cette foi de dire, ok, Jésus, il a donné sa vie pour moi, je suis chrétien. Mais ce n'est pas tout ça. On ne va pas s'arrêter là. On continue. Donc là, on va continuer par rapport à la foi. C'est par la foi que Noé... Alors imaginez, Noé, imaginez dans quelle position il était, Noé. Hein, en plein désert. Dieu lui dit, construis un bateau. Non. Je suis le seul qui se choque ou quoi, non. Bon, construis un bateau en plein désert. Là, Noé, il a dû se dire... Bon, quelque chose qui me... Bon. Et il a obéi. C'est-à-dire que de l'invisible qui était là, il a cru que l'invisible devenait visible. C'est ça la foi, croire que c'est pour que, quand c'est pas pour que ce soit. Donc Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse de Dieu, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Je ne vais pas tout lire parce qu'après ça va faire redondant, mais voilà. Et on en a même Sarah, hein, qui avait 90 ans, qui a eu un enfant, etc. Alors qu'à 90 ans, en règle générale, peut-être pas à cette époque-là, mais bon. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé, d'accord, naquit la postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable, qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc qu'est-ce qu'on a voulu dire par rapport à ça? Que sans foi, devant Dieu, on n'est rien. D'accord? Galates 3, versets 2 à 12. Alors, je suis désolé, hein, j'ai pris à chaque fois tout le texte. Je ne veux pas non plus tout lire parce que ça va vraiment faire lourd. Mais là, j'ai mis en gras. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que vous vous êtes dit que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, tous ceux dont on parle, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David, que tous ceux que vous pouvez imaginer, ils n'avaient pas la Bible. Ils l'avaient la Bible? Non, ils ne l'avaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'ils ont obéi à une parole vivante. Ça veut dire que tout simplement, c'est Dieu qui leur parlait directement. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se doit d'avoir là aussi un Dieu qui est vivant. Et rassurez-moi, vous l'avez, ce Dieu vivant? Moi, je l'ai en tout cas. Le Dieu vivant que l'on a va nous parler. Et après, la Bible, la parole de Dieu, qui est une parole vivante, puisqu'elle est écrite par un Dieu vivant, va conforter ce que Dieu nous dit. D'accord? Demain, si vous avez un de vos frères en Christ qui vient vous voir et qui vous dit un truc aberrant, vous allez pouvoir lui dire « Mais non, c'est pas biblique. » Parce que la Bible va venir attester de la parole de votre frère ou de votre sœur. Par contre, si Dieu vous parle au travers d'un frère ou d'une sœur, si c'est conforme à la Bible, eh bien, effectivement, Dieu vous parle à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ça veut dire que la Bible, elle n'est pas une parole écrite noir sur blanc qui doit être interprétée à la lettre, parce que la lettre sans l'esprit tue. Ça veut dire que la Bible, on se doit de pouvoir la consulter, de la lire, de la prendre par cœur si vous le souhaitez. C'est pas évident, hein, je vous assure, il y a 66 livres. Mais la parole de Dieu va venir pour conforter une parole que Dieu va nous avoir dit. Évitez de piocher. Des fois, il y a une histoire qui tourne comme ça dans nos milieux, c'est la personne qui dit « Seigneur, j'aurais besoin que tu me parles ». Et puis, il prend sa Bible, il l'ouvre et dit « Seigneur, parle-moi ». Et Judas alla se pendre. Seigneur, t'es sûr? On recommence. Et il rouvre sa Bible, n'importe où. Et toi, va et fais de même. Il y a des gens qui interprètent la Bible à la lettre. Même dans nos milieux, il y a des gens. Vous savez, quand il est dit que ton œil, si ton œil a péché, arrache-le et envoie-le, parce qu'il vaut mieux rentrer avec un œil en moins dans le royaume de Dieu plutôt qu'avec ses deux yeux et puis partir en enfer. Il y a des chrétiens qui se sont estropiés. Il y en a qui le font littéralement. Mais c'est pas ça la Bible, c'est pas ça la parole de Dieu. Dieu veut qu'on puisse marcher par la foi. Quand il est marqué ce passage dans la Bible, il est bien dit, ok, mais Dieu peut guérir, Dieu peut purifier nos pensées, Dieu peut faire en sorte que l'on puisse être purifié dans notre corps. Allez pas vous arracher un œil ou un bras ou une jambe parce que vous avez péché à cause de ce membre-là. Par contre, faites confiance à Dieu. Dieu parle. On a un Dieu qui est réellement vivant, qui souhaite nous parler. D'accord? Je vais quand même le lire rapidement. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Là, je vous rassure, Paul, il est ironique. Est-ce que c'est par la loi que vous avez reçu l'Esprit ou c'est parce que je vous ai confessé la foi ou je vous ai prédit, prêché la foi ?» Il continue. « Êtes-vous tellement dépourvu de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Paul, il est ironique. Il dit « Attendez, moi je vous ai prêché une parole sur la foi, dire que la foi, Dieu parle et que vous allez pouvoir marcher en nouveauté de vie. » Et puis vous, vous revenez à la chair. Et avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain, hein, est-ce que vous avez vraiment souffert ? Je me pose la question. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Ça, ça peut être actuel, hein, c'est aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui. Moi, je rencontre des personnes qui me disent « Bah oui, de toute façon, moi, votre église, j'apprécie pas ça parce qu'il y a ça dans votre église ou il y a ça. » Ils s'arrêtent sur des petits détails. Des fois, encore dernièrement, cette semaine, j'ai entendu un truc aberrant. « Mais ça se fait pas dans une église d'aller mettre les paniers ici puis de venir porter son offrande. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu préfères qu'on passe dans les rangs ? Tu crois que c'est encore plus biblique ?» Et des petits détails comme ça, parce que des gens s'arrêtent à la lettre. Et la lettre, sans l'esprit, tue. Ça tue. Si vous lisez la Bible comme un bouquin, comme un vulgaire bouquin, et je vous assure, hein, allez acheter Harry Potter. Hein. Non, soyez attentifs à Dieu, parce qu'on a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui veut nous parler. Et il veut nous parler, non seulement il parle, mais et en plus, il va confirmer sa parole par sa parole qui est vivante. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous imaginez l'honneur d'Abraham ? Dieu dit, ben moi je suis le Dieu de David, je suis le Dieu d'Abraham. Puis ouais, j'aimerais bien que Dieu dise ça, moi je suis le Dieu de Frédéric. Et là moi, ouais, il a dit qu'il était mon Dieu. On devrait tous se le dire ça. Vous êtes tous des... Vous êtes tous Manuel, Dieu est le Dieu d'Emmanuel. Bon, en plus, c'est bien, Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, c'est ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. C'est par la foi que vous allez avancer, que l'on va avancer, que je vais avancer. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Pareil, les païens... On les amène à Dieu par la foi. Les trois grandes religions, et j'aime pas le terme religion, vous le savez, les trois grandes religions aujourd'hui dans le monde, c'est quoi ? Islam, judaïsme, protestant. Quelle est la différence entre les trois ? Je fais pas de... Eh bien, la foi. Les islamistes, ils ne font qu'obéir à une parole. Il n'y a pas de foi, hein ? Il n'y a aucune foi dans l'islam. Le judaïsme, c'est pareil. Ce ne sont que des commandements. Fais ça, obéis à ça, fais ça, t'obéis, point barre. Fais-toi péter pour les islamistes, etc. Alors que nous, on a un Dieu qui nous dit « La foi, sans foi, vous ne m'êtes pas agréable. Apprenez à croire en moi. » La foi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est croire. Croire en Dieu, croire qu'on a un Dieu qui est vivant. Croire à cet être surnaturel. Et c'est vrai que c'est difficile. Hein. Il y a des gens qui vous disent « Moi, je ne crois pas en Dieu parce que je suis un cartésien. » Antoine, il l'a encore dit la semaine dernière. Il dit « Ouais, bah, nous, les Français, on est des bons cartésiens. » Ouais, parce que les gens, ils se disent « Ouais, moi, je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. » Et ouais, mais c'est pas parce qu'il fait nuit que demain, le soleil, il va pas se lever. Hein. Tu ne le vois plus, le soleil. Hein. Pourtant, demain, il sera là. Hein. Moi, quand des gens me disent ça, je leur dis « Oui, tu peux ne pas croire en Dieu. Ça n'empêche qu'il existe. » Ça n'empêche que Dieu existe et qu'un jour ou l'autre, tu seras devant lui. Tu peux ne pas croire. Et croyez-moi, il faut beaucoup de foi pour ne plus croire en Dieu ou pour ne pas croire en Dieu. Il faut beaucoup de foi. De toute façon, l'homme est créé pour croire. L'homme est créé pour avoir un Dieu. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est athée, qui se dit athée, cherchez bien, fouillez dans sa vie et vous verrez qu'il a un autre Dieu. Parce que sa nature d'humain est faite pour adorer quelque chose. Il y a des athées qui vénèrent Zinedine Zidane. C'est un dieu, Zinedine Zidane. Ou Johnny Hallyday. Hein. Nous, on a des amis dans la chambre à coucher, ils sont mariés, il y a une pendule avec Johnny dessus. Moi, je serais l'homme de la famille, je dirais « Oh, c'est moi ou c'est lui ?» Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Ça veut dire tout simplement que si vous avez la foi, ben, vous serez vivant en Dieu. Ayez cette foi, développez votre foi. Faites en sorte de pouvoir voir des choses. Quand je me suis levé hier matin, j'avais un message sur mon portable. Et dans ce message, le monsieur me disait « Fred, on touche le fond du fond. » Ça n'a pas été long, le message, c'était 10 secondes. Il dit « Fred, j'ai besoin que tu me parles parce qu'on touche le fond du fond. » Je l'ai rappelé. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? C'est difficile de parler à quelqu'un comme ça, qui vit des problèmes financiers, problèmes de santé, etc. Qu'est-ce que je lui dise ? Ok, je vais prier pour lui. Mais il a besoin de faire un pas de foi, cet homme. Ou cette famille a besoin de faire un pas de foi. Ils ont besoin de dire, ok, ben voilà, j'ai des problèmes dans telle ou telle situation, et ben je vais faire le pas de foi avec Dieu. Et c'est là que je vais choquer vos oreilles. Je vais parler de la dîme. Bien souvent, on nous dit, oh, l'Église, on n'arrête pas de nous parler d'argent, etc. Effectivement. Vous savez que 25% des discours de Jésus, quand il était sur Terre, c'était d'argent. Ça veut dire que 25%, imaginez, sur 52 dimanches, le nombre de fois où on devrait vous parler d'argent. La dîme, elle n'est pas là pour dire « filez-nous votre argent, on en a besoin ». Effectivement, l'Église en a besoin, on n'a aucune subvention, on a besoin de votre argent pour vivre. Mais lorsque l'on dit à quelqu'un « tu vas donner 10% de tes revenus », la personne souvent nous dit, elle ouvre des yeux grands comme ça en nous disant « mais pourquoi tu me dis ça ?» Tout simplement parce que tu vas avoir ta foi qui va être mise en œuvre. Je ne te dis pas ça parce que tu vas me donner ton argent, mais parce que tu vas mettre ta foi en Dieu. C'est le seul domaine dans la Bible où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Le seul sujet dans la Bible où on peut mettre Dieu à l'épreuve, c'est l'argent. Aujourd'hui, Dieu nous dit, estime-toi heureux. Je te donne 100%, je ne te demande que 10%. Je pourrais te laisser 10% et te réclamer 90%. Là, notre foi serait nettement plus balèze, hein, je vous assure. Mais voilà, aujourd'hui, notre foi, elle est aussi dans ce domaine-là. Parce que, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que cette famille hier a des problèmes financiers. Mais on doit leur montrer ce que c'est réellement que de vivre en Dieu, la foi, y compris dans l'argent. Avant de trouver ce poste dans lequel je suis depuis un an, j'ai vécu un an de chômage. Et j'ai manqué de rien. Dieu a pourvu. Et encore maintenant, il pourvoit. Je pourrais vous parler ne serait-ce que du chantier de notre maison où Dieu a pourvu et il pourvoit encore. Parce que Dieu connaît notre fidélité de cœur. Il sait qu'on a cru dans le fait que si je mets ma confiance en Dieu, même dans les finances et aussi dans les finances, Dieu pourvoira. Si je vous ai choqué avec ces paroles, venez me voir, on peut en parler. Mais ça, c'est un sujet tabou en France, hein. L'argent. Mais notre foi doit être pure en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est croire. C'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Romains 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Je n'ai point honte de l'Évangile. Là, normalement, j'aurais dire « Amen, oui, moi non plus, je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là, j'enfonce le clou, hein. On va passer à un autre niveau. Allez, vous êtes prêts ? On passe à un autre niveau. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Bon, ça, j'espère. Celui qui a honte de l'Évangile, vas-y, lève la main. Et je m'en frotte les mains. Non, non, je plaisante. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le salut de Dieu C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On a la parole de Dieu, si tu n'y crois pas, t'es pas sauvé. Ouais, c'est ça. C'est une puissance de Dieu, donc l'évangile est une puissance de Dieu. Les évangiles, je vous rappelle, hein, c'est quand Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean, d'accord, Jésus était sur terre, il a eu son ministère pendant 3 ans, on a vu comment Jésus est venu, comment il est parti, etc. On dit bien que c'est pour tout le monde, puisque ça va du juif premièrement, puis du grec. Hein, c'est les deux extrêmes. Hein. Au temps de Jésus, c'était les deux extrêmes, grec et juif. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc la justice de Dieu, on nous dit que la parole de Dieu est justice de Dieu. La justice, ce n'est pas dans le fait de la justice avec des avocats, des juges, etc. C'est le fait d'être juste devant Dieu. Et pour avoir cette justice, pour pouvoir rentrer pleinement dans ce que la parole et les évangiles nous disent, il faut qu'on vive par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est pas mis, le juste vivra par les évangiles. Ça va ? Lorsqu'on parle de foi, moi j'ai tendance à dire qu'il y a à la fois l'aspect qualitatif de la foi, l'aspect quantitatif de la foi. Il y a une qualité de foi, il y a une quantité de foi. Je vois des sourcils. Je vais la refaire. J'aime bien les sourcils. Une qualité de foi, une quantité de foi. La qualité de foi, je vais citer pas mal de choses que j'ai pris en note, mais il faut savoir que, là, d'après ce qu'on vient de voir dans Romains, je n'ai point honte de l'Évangile, etc., etc., on est gardé par la foi. La foi nous garde. On est d'accord ? La foi, c'est qu'on va mettre en pratique des paroles quand Dieu nous parle, appuyé par la Bible, donc on est gardé, puisque Dieu nous permet de rester dans ses voies. On est gardé par la foi. On doit donc, ça je l'ai déjà dit, on doit se fier à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit doit être conforté par la Bible. D'accord ? Jésus, dans l'Évangile, cherche des gens de foi. À chaque fois, Jésus, dans la Bible, il disait « Va, ta foi t'a sauvé ». À chaque fois, il cherchait la foi, Jésus. Il cherchait des personnes qui avaient une foi. Jamais il a dit « Je recherche des personnes qui sont saints ou qui… » Non, c'était des gens avec une foi. À chaque fois qu'il opérait un miracle, il disait « Va, selon ce que ta foi veut, ou va, et comment dire, que ta foi soit l'action dans ta vie ». D'accord ? J'ai repris plusieurs… On va le voir juste après, hein. Pour avoir la foi et grandir dans la foi, il faut que Dieu nous parle. Nous avons un Dieu vivant et donc sa parole est vivante. Pour vivre par sa foi, on se doit de payer le prix. Parce que, comme je disais tout de suite, on a non seulement une foi qualitative, mais aussi quantitative. Mais pour avoir ces deux-là, il faut aussi avoir un certain abandon de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Voilà, tu vas quitter ton pays. » Abraham a dit à Dieu, « Ok, mais je vais où ?» Dieu lui a dit, « T'inquiète pas. Tu prends ta famille, tes richesses, et tu quittes le pays, et c'est moi qui vais te guider. » Là, Abraham a agi avec foi, mais il a abandonné. Il a abandonné son intellect, il a abandonné tout, son pays, là d'où il est natif, pour pouvoir mettre sa foi en action et pour que Dieu puisse le diriger. La même chose pour Noé. Quand je disais tout à l'heure, Noé, il a dû construire un bateau dans le désert. Il a dû, son intellect était là en se disant, mais pourquoi je vais aller faire un bateau dans le désert ? Et il a dû croire en Dieu. Donc il y a un abandon par rapport à ça. Il y a des choses, je vais les passer. Des choses comme la foi n'est pas une récompense. La foi, ce n'est pas une récompense. Tu as bien travaillé, bah tiens, je vais te donner un peu de foi. Non, c'est l'inverse. Plus on développe sa foi et plus la récompense, c'est qu'on a une relation encore plus forte avec Dieu. Parce que sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu sans foi. Et grâce à cette foi qu'on va développer dans nos vies, ça va ouvrir tout, notre cœur, notre esprit, notre intellect, tout. Et ça va permettre à Dieu de pouvoir agir dans vos vies. Je la refais. Grâce à la foi, ça va permettre, cette foi que vous allez développer, ça va permettre à Dieu d'agir dans vos vies. On ne vit pas une vie de bénédiction, on vit une vie de foi. Tout ça, c'est des petites notes que j'ai prises. On ne vit pas une vie de bénédiction. On ne court pas après les bénédictions. On vit par la foi. On vit une vie de foi. Dieu veut des gens de foi. Jésus, quand il était sur terre, dans les évangiles, à chaque fois, il disait, mais celui-là, je n'ai jamais vu une foi aussi grande depuis que je suis dans mon ministère. Où va ma fille, ta foi t'a sauvée. Où mon fils, ta foi t'a sauvée. Tiens, qu'il en soit fait selon ta foi. À chaque fois, Jésus disait ça. C'est des paroles de Jésus que je vous cite là. On peut les reprendre. Elles sont dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et pourquoi donc je dis que la Bible est quantitative ? C'est tout simplement parce que la quantité de foi que l'on aura fera de nous des chrétiens plus ou moins aux aguets à la parole de Dieu, c'est-à-dire attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Alors je pourrais très bien citer Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Là, c'est quand les apôtres viennent le voir en lui disant « Mais pourquoi on n'a pas réussi à guérir les malades ou à chasser les démons ?» Ben, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, c'est pas sur le mur, hein. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Avec l'équivalent d'un grain de sénévé de foi. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un grain de sénévé ? Pourquoi on utilise ça ? Pourquoi Jésus a parlé du grain de sénévé ? C'est tout simplement parce que c'est la plus petite graine au monde. C'est la plus petite graine au point de vue capacité, au niveau. Mais une fois qu'elle a germé, ça nous donne quelque chose d'assez sympa. Donc quand on démesure l'état de la petite graine jusqu'à l'arbre que ça donne, ben Jésus dit, ben tiens, si vous aviez ne serait-ce que l'état d'une petite graine de sénévé, croyez-moi, vous prendriez cette montagne, là vous lui diriez, tiens, va plonger dans la mer et la montagne, elle irait. Vous imaginez ? Imaginez un noyau de pêche ou n'importe quoi, mais voilà. Donc l'aspect quantitatif, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? L'aspect quantitatif, vous avez peu de foi, vous ne croyez pas à ce que Dieu peut faire. Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Aspect quantitatif. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents de la mer et il y eut un grand calme. Même sur la tempête, les éléments, on peut, si on a un peu de foi, dire à une montagne de se plonger dans la mer ou au vent de se calmer. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Là, ce sont les aveugles. Jésus, il a pris un peu de boue, il a craché au sol, il a fait de la boue, il leur a mis sur les yeux et puis il a dit, voilà, qu'il leur soit fait selon votre foi. Ça veut dire que ces aveugles, peut-être que s'ils n'avaient pas une foi suffisante pour retrouver la vue avec les 10 dixièmes à chaque œil, peut-être qu'il y en aurait un dixième là et puis 2 dixièmes sur l'autre. Mais leur foi était tellement grande qu'ils ont retrouvé une vue parfaite. On peut avoir la foi pour quand on prie pour quelqu'un et dire avoir la foi que cette personne soit guérie. Mais il faut aussi que la personne qui soit guérie accepte et croit que Dieu est capable de le guérir. J'en reviens à cette famille d'hier, me dit, bah oui... Elle n'est pas guérie, on a prié pour elle, etc. Mais oui, peut-être que c'est le temps de Dieu. Peut-être que Dieu fera en sorte qu'il y ait un miracle qui soit beaucoup plus beau ou quoi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les plans de Dieu. Mais il y a aussi une question de foi. Est-ce que tu crois réellement que tu peux être guéri ? Est-ce que tu crois réellement que Dieu peut agir dans ta vie ? Alors, Jésus, hop, on revient juste un peu. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande, là encore, aspect quantitatif. Ta foi est grande. Hop, si j'arrive à le remettre, voilà. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. C'est dur hein, de dire qu'il te soit fait comme, selon ce que tu veux. Voilà, c'est ta foi qui va être déterminante. C'est en fonction de ta foi que tu vas recevoir les choses. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. On est gardés par la foi. La foi nous garde. Sans foi, on ne peut pas plaire à Dieu et on est dans les choux. On est dans les choux parce qu'on n'est pas gardé. C'est notre foi qui fait qu'on va avoir une relation qui sera nettement plus intense avec Dieu. Cette relation va faire en sorte que Dieu va pouvoir nous parler. Et que cette foi va nous permettre de croire aux paroles de Dieu. Et que si on a une foi suffisante, Dieu va continuer à nous parler, etc. Et Dieu va nous garder dans ses plans. Et Dieu va nous montrer ses plans. Dieu va nous dire, voilà, je te parle directement. Je te parle directement. Après, je vais confirmer. Ça peut être des confirmations par la prophétie. Mais Dieu te dit, moi j'ai envie de te parler. Ouvre grand tes escouettes. Ouvre grand les écoutilles parce que j'ai envie de te parler. J'ai envie de te dire, voilà, moi ce que je veux pour ta vie, c'est ça. Ce que je veux pour ta vie, c'est ça. Ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est ça. Je veux que tu ailles là aujourd'hui. Je veux que tu quittes ça. Je veux que tu achètes ça. Je veux que tu revendes ça. Je veux plus que tu fasses ça. Je veux par contre que tu fasses ça. Dieu, il est là pour nous parler. Et sans foi, on n'entendra rien. On n'entendra rien. Parce que 1 Pierre 1,5 nous dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » Vous reconnaissez cette photo ? Alors là, bon, celle de gauche, c'est celle où on habite. D'accord ? Vous avez reconnu ? Non ? Non ? Bon. C'est la Terre. À côté, vous avez la Lune. Vous l'avez reconnue aussi ? La Lune ? Bon, elle est un peu plus grise. Hein. C'est moins rigolo d'aller vivre là-bas. Et ça m'a amusé quand la Sandy me donnait la parole tout à l'heure, parce que je disais, mais non, Sandy, fais pas mon prêche, Sandy. J'ai failli monter sur l'estrade pour te virer l'estrade. Mais voilà. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un état de relation avec Dieu où eh bien, on profite de cette terre qui est là. On profite d'avoir une relation avec Dieu. Mais, comme vous le savez, il y a quelques années de ça, on a eu une jolie éclipse de soleil. Une éclipse de soleil. Ça veut dire qu'on a eu la Terre, on est sur la Terre. Quand on regardait le soleil, alors avec des lunettes particulières, hein, je vous rassure, autrement ça pue, enfin, on serait tous aveugles. On a la Lune qui s'est intervertie devant le soleil, et c'est ça qu'on appelle une éclipse de soleil. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par ça? C'est que, quand on prend la proportion de chacune des planètes, ou des étoiles, dans notre système solaire, voyez la Terre, la grandeur que la Terre peut avoir par rapport au Soleil. Très clairement, le Soleil, c'est Dieu. On va procéder par image. Donc vous imaginez la grandeur de Dieu par rapport à la Terre. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a un grand Dieu ?
Amen.
J'aime bien faire ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a un grand Dieu ?
Amen.
Je raffole de ça. Le mec qui s'éclate tout seul sur l'estrade. Donc vous voyez la Terre, elle est toute petite par rapport au Soleil. Ah, ça se voit, on voit pas bien. Il faut savoir que la distance entre Terre-Lune et Lune-Soleil, la distance Terre-Lune, si on multiplie ça par 400 fois, vous avez Lune-Soleil. D'accord ? Vous voyez la grandeur de la Lune par rapport à la Terre ? Vous avez vu la grandeur du Soleil par rapport à la Terre? On a un petit grain de sable qui s'appelle Lune, qui est capable de venir occulter le Soleil à nos yeux, alors qu'elle est à 400, le Soleil est à 400 fois la distance Lune-Terre, et que la Terre, hop, ici, donc voilà ce que ça donne. On a une Lune qui est beaucoup, beaucoup plus petite que le Soleil, mais à elle toute seule, elle arrive à occulter le Soleil. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on s'arrête trop à la Lune qui est devant. Et on ne regarde pas le Soleil qui est derrière. Parce que l'éclipse de Soleil, quel qu'il a été, ou la durée que ça... Ou ça a duré combien ? Je ne sais plus. Deux heures ? Je ne sais plus. Bon, enfin, on s'en fout. Après, le Soleil, il est revenu. Hein. La Terre, elle est partie. Mais on a trop tendance à se dire, voilà, moi, dans ma vie, j'ai un Soleil qui est là, qui est Dieu, dans lequel je vais avoir cette foi, je vais avoir cette croyance... Mais de par cette croyance, des fois, j'ai une lune qui se met entre nous deux. Mais je vous rassure, hein, trop souvent, la lune, elle reste entre le soleil et vous. Et moi. Et nous. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire, je reste constamment, spirituellement, dans une éclipse de soleil. Pourquoi ? Parce que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Est-ce que ça va, cette image ? Là, on est dans des distances qui sont énormes, des grandeurs qui sont énormes. Mais aujourd'hui, si on a une petite foi, on verra des petits miracles. Si on a une grande foi, on verra des grands miracles. Parce qu'on a un grand Dieu et que notre grand Dieu nous dit, mais la foi, mais allez-y. Si vous en avez même dans l'état d'une graine de sénévé, mais vous pourriez bouger une montagne, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez pour développer votre croyance ? Parce que la foi, c'est ça, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Mais développez votre foi en moi. Et à partir de là, je vous assure, je vais vous parler. Je vais agir dans vos vies. Je vais agir dans votre vie d'église. Je vais agir dans votre vie de famille. Je vais agir dans votre boulot. Je vais agir dans votre situation. Je vais agir partout. Mais votre foi sera déterminante. Sans foi, sachez que je ne peux rien faire pour vous. La conclusion de mon prêche, c'est ça. Qu'il soit fait selon ta foi. Et pour en revenir à cette fameuse année 2013, j'ai envie de vous dire non pas bonne année, et j'ai envie de vous dire qu'il en soit fait selon votre foi. Beaucoup disent hein, 2013, oh, 2013 ça porte malheur, machin. Non. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour mettre cette année 2013 sous la foi, de développer notre foi, qu'on arrête de se regarder le nombril en disant oui, mais dans l'église, on met les paniers devant, c'est pas à nous d'aller. Non. Non, c'est pas ça une église. Une église, c'est une église qui est forte dans la foi, qui développe sa foi pour que demain, on puisse agir et que Dieu puisse agir au travers de nous. Vous avez envie de ça ? Moi, ça me... Moi, j'ai une envie terrible de pouvoir voir Dieu agir. J'ai envie de voir Dieu agir. Je finis par une petite parenthèse parce que la semaine dernière, lorsqu'on a eu nos cours, samedi dernier, il y a un passage que je ne comprenais pas dans la Bible et ça me turlupinait depuis plusieurs mois, années. C'est le passage de Ananias et Saphira. Quand ils vont vendre leur champ et qu'ils apportent le montant du champ aux apôtres, et que les apôtres, donc l'un après l'autre, hein, et que les apôtres leur disent bah voilà, vous avez menti, tu seras foudroyé sur place. Hop, Ananias, boum, foudroyé, il mort. Et après, c'est Saphira qui arrive et qui dit ils s'étaient mis d'accord tous les deux, et fait la même chose que son mari. Et le disciple, il dit voilà, bah, ceux qui viennent enterrer ton mari, bah, c'est encore tout chaud, le trou, il vient juste d'être rebouché. D'ailleurs, ils ne devaient pas être contents, ceux qui ont rebouché le trou, parce qu'ils se sont dit bah, tu nous aurais dit de laisser le trou ouvert, on en aurait deux. Mais. Et hop, Saphira, tout de suite, a été foudroyée sur place. Et je ne comprenais pas ce passage. Et je me rends compte que, enfin, d'après l'explication, c'est qu'il y a eu du mensonge de la part d'Ananias et Saphira. La foi, elle n'était pas là. C'est-à-dire que là, on parle bien de l'Église primitive, mais Ananias et Saphira ont menti devant Dieu. Ils n'ont pas eu cette foi suffisante de dire, voilà, on apporte la totalité du montant du champ. Et Dieu a agi. Et pourquoi je dis ça aussi ? C'est parce que je me disais, mais waouh ! Sur la parole d'un disciple comme ça, une personne qui a été foudroyée, deux personnes qui ont été foudroyées. Et donc notre intervenant, Jean-Marie Ribet, dit, mais oui, si aujourd'hui on avait la même relation qu'avaient les disciples au temps de l'Église primitive, de la première Église, hein, l'Église primitive c'est la première Église, après que Jésus soit parti, eh bien on verrait ça dans l'Église. On verrait des gens qui, par leur mensonge, seraient foudroyés dans l'Église. Je me dis, ça fait peur, parce que le jour où on va avoir vraiment cette relation avec Dieu, où on va avoir une foi qui va grandir, et que notre relation va être de plus en plus grande avec Dieu, il y a des choses qui vont être révélées aussi bien en positif qu'en négatif. L'épisode Ananias et Saphira pourrait très bien arriver aujourd'hui. Et ça, c'est de la qualité de notre relation avec Dieu qui fait que les choses sont révélées, on a un discernement et que Dieu agit. Donc moi, j'ai envie de mettre cette année 2013 sous la foi. Le fait de pouvoir prendre cet engagement, chacun ici, et de dire, voilà, moi j'ai envie de développer ma foi. J'ai envie, ok, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la dîme, je me suis dit, tiens, ça fait des années que ça me travaille et j'ose pas le faire, là je vais faire un pas de foi. Il y a toujours un abandon, toujours un abandon. Il y a toujours un prix à payer. Pour donner la dîme, il faut pouvoir aussi dire, tiens, bah, je la donne. Mais c'est pareil, ça peut être... dans la famille, dire voilà, j'ai été peut-être que j'ai pas ce que j'ai fait là dans ma famille, c'est pas bien, je vais aller demander pardon à ma famille. Peut-être que ce que j'ai fait dans mon boulot, peut-être que j'ai volé dans mon travail. Voilà, je vais remettre les choses en place, je vais demander pardon à Dieu et puis je vais agir. Mais ce qu'il faut absolument. Et là je peux utiliser ce verbe, il faut absolument qu'on ait une foi qui soit développée, qui se développe chaque jour et qu'on puisse travailler avec une foi qui soit de plus en plus grande avec et pour Dieu. Parce que si on a la foi suffisante avec Dieu, on peut lui être agréable et on est gardé par sa foi. Amen. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y en a ici qui ont envie de ça ?